Maître, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je voudrais, pour ouvrir cette deuxième conférence du séminaire consacré à Israël et l'universel humain, Israël et les nations, selon la terminologie hébraïque traditionnelle, comme nous l'avons vu hier, citer un enseignement de Rabbi Hanina, extrait du Midrash sur le livre de Jonas. Selon cet enseignement, les 70 nations étaient toutes représentées sur le bateau à bord duquel le prophète Jonas avait embarqué et dont le cours était celui de l'histoire de l'humanité. Israël et les nations, d'après ce Midrash, apparaissent comme animés d'un même rêve universaliste. Or, nous savons bien qu'historiquement, il n'en fut rien. Chaque nation a secrété son propre universalisme et le juif, au cours de ses 2000 ans d'exil, n'a cessé d'être tenté par les discours des civilisations dans lesquelles il s'est trouvé. Tout se passant comme si, à l'inverse de ce que dit le Midrash, il y aurait eu, non pas un, mais 70 bateaux, un pour chacune des nations de l'Alliance juive, et comme si, assoiffés d'universalisme, les Juifs, Jonas démultipliés, n'avaient cessé de s'embarquer sur des bateaux qui n'étaient pas le leur, et pardonnez ce mauvais jeu de mots, à chaque fois d'être menés en bateau. Cette fascination universaliste, comme la mer toujours recommencée, que nous allons traiter ce soir. Hier, après l'avoir différencié de l'universel, Manitou et David Messas ont distingué l'universalisme de ses différents avatars, tels que les définit la tradition juive. Au plan historico-collectif, l'impérialisme et la typologie des quatre empires. Au plan individuel, le cosmopolitisme, qui est un universalisme qui aurait oublié sa spécificité nationale propre. Le cosmopolite étant au sens strict celui dont la polis, j'emploie le terme grec, la cité, est le cosmos, le monde, l'homme sans identité, l'homme du partout et du nulle part, l'homme en l'air, le Luftmensch dont parle Marx à propos du prolétaire. Avec l'émancipation politique des Juifs au début du XIXe siècle, la question de l'universalisme, qui jusque-là, sans être totalement absente de la conscience juive, et nos textes sont là pour en témoigner, était quelque peu refoulée. Cette question prend une consistance nouvelle qui amène progressivement l'intelligentsia et les masses juives à se rallier aux idéologies extérieures. La confrontation avec l'universel se vit alors la plupart du temps dans l'oubli de soi. Près de deux siècles se sont écoulés depuis, jalonnés des événements que nous connaissons, et aujourd'hui, cet attrait de la nouveauté s'est quelque peu émoussé. Les portes de l'universalisme et des universités sont grandes ouvertes. Le goût du fruit défendu dont parle Kafka dans son journal quand il évoque les élèves de Yeshivot lisant en secret les grands textes de la littérature occidentale, ce goût a beaucoup perdu de sa saveur. S'interroger sur Israël et l'universel humain relève aujourd'hui d'une autre problématique. À l'ère du réveil des identités oubliées, la fascination universaliste a changé de nature, et c'est à l'intérieur du judaïsme, et non plus par son refus, qu'elle doit trouver à s'accomplir. Le coq juif doit réapprendre à chanter dans son arbre généalogique. Mais c'est déjà anticipé sur les conclusions du séminaire. Ce soir, c'est du temps du refus et du retour que traitera Raphaël Rosner. Ses qualités d'historien et de philosophe le désignaient tout spécialement à cet effet. Je suis particulièrement heureux de l'accueillir ici ce soir, dans cette maison qui fut, il y a une dizaine d'années, la sienne, puisqu'il était, il avait la responsabilité des études au sein du QEJ, des années 77 à 79, époque à laquelle il a décidé de monter en Israël, où il est directeur de recherche au musée de la diaspora et chargé de conférence à l'Institut Beth Berl. Raphaël, je vous cède la parole.
Bonsoir. Je suis d'abord très ému de me retrouver ici après 8 ans, 9 ans même. Et je remercie pour ça Manitou et le centre Rachi. Je suis très heureux de me retrouver aussi aux côtés de M. Goldman, qui exerçait des fonctions importantes dans cette maison à l'époque. Il m'a été demandé de traiter un thème, et c'est un thème difficile à aborder, puisque finalement, il
transcende l'histoire juive. Je parlerai sûrement ce soir plus en historien qu'en philosophe, et je voudrais vous dire que, comme nous l'avons vu hier soir, a priori, le judaïsme de la tradition, assure une fonction universaliste. Et de la même façon, pourrait-on dire, refuser ce judaïsme serait refuser l'universalisme. Mais en fait, de quoi parle-t-on? Il y a d'abord un problème de sémantique. Que signifie le mot, ce concept, universalisme? Que signifie judaïsme? Les définitions de ces termes sont extrêmement nombreuses. Permettez-moi juste d'une manière très succincte d'en rappeler quelques-unes d'entre elles. S'agit-il, quand on parle d'universalisme, d'une doctrine, d'une croyance, où les hommes seraient destinés à un même salut? S'agit-il du caractère d'une religion où tous les hommes procèdent de cette religion et non un peuple donné? S'agit-il d'assimilation, d'involution? S'agit-il de l'homme social uni par le sentiment du moi au sentiment du toi, dans un rapport, comme Manitou le mentionnait hier soir, de réciprocité? De la même façon, le terme de judaïsme nous laisse aujourd'hui face à une certaine ambiguïté. De quoi parlons-nous? Du judaïsme de la Torah, de la religion du peuple juif, d'une certaine judéité, d'une approche séculière, laïque, culturelle du fait juif? S'agit-il d'une terminologie sociale faisant apparaître ce groupe qui se dit juif? Je voudrais, au préalable, en préambule, raconter deux petites histoires chassidiques. Je ne sais pas d'ailleurs si ce sont vraiment des histoires. Un célèbre rabbi décida un jour de s'occuper du monde. Et il se rendit compte que le monde était bien trop grand pour lui. Alors il décida de s'occuper de son pays. Puis son pays étant bien trop grand pour lui, il décida de s'occuper de sa ville. Et ensuite de sa famille. Jusqu'au jour où il décida de ne s'occuper que de lui-même. Peut-être est-ce là que commence l'universalisme, quand je commence à m'occuper de moi. Et
c'est pas le Rebbetzin?
Non, c'est une histoire chassidique qui est, je ne me souviens plus pour le moment à qui elle est attribuée.
Israël de Savante.
Boubert le cite dans Organise, encore. Je raconterai une histoire qui me revient constamment. Pratiquement à chaque conférence, elle trouve sa place. Et c'est probablement une histoire universelle. Il s'agit du Becht, cette fois, du fondateur du chassidisme, qui demanda à Dieu, qui était son voisin, au ciel, au Gan Eden. Et il lui fut répondu, Gedalia. Et voilà le Becht de rechercher ce Gedalia dans les villes de Pologne. Et le Becht ne trouvait pas Gedalia, jusqu'au jour où, arrivant dans un village extrêmement éloigné, où ne vivaient pratiquement que des Polonais, il demanda au premier venu, un Polonais, s'il y avait un Juif dans ce village. Le Polonais lui répondit, oui, tout au fond du village, il y a une vieille maison toute délabrée et il y a là un Juif. Et le Becht se rendit dans cette maison, frappe à la porte et entend d'une voix extrêmement lourde, vulgaire, entrer. Il entre et il voit un homme énorme en train de manger, de se baffrer. Et le Becht demande à cet homme, qui es-tu? Comment t'appelles-tu ? Et l'autre répond « Gedalia ». Et il continue à manger. Le Becht rentre donc, il a trouvé Gedalia, mais un Gedalia très bizarre puisqu'il ne fait que manger, il est gros, son voisin au ciel. Et le Becht essaye de lui parler, il n'obtient pour toute réponse qu'un mouvement de mandibule. Enfin, après bien des requêtes, il obtient l'autorisation de ce juif de rester avec lui pendant quelques jours. Et pendant ces 3 jours où le Becht est avec lui, l'homme ne fait que manger, il ne dort pas. Il mange, il mange, il mange. Et c'est là que l'histoire devient terrible. Au bout de 3 jours, l'homme finit par s'ouvrir devant le Becht et lui explique pourquoi mange-t-il. Et l'homme lui raconte, ce Gedalia lui raconte que dans sa jeunesse, il allait se promener dans les forêts de Pologne avec son père et qu'un jour les Cosaques sont venus. Et lorsque les Cosaques sont venus, ils ont arrêté son père. Mais son père avait cette particularité, dit-il. Mon père était très mince, très petit. On le voyait à peine. Et les Cosaques ont dit à mon père, « Embrasse la croix. » Et mon père a dit, « Non, je n'embrasserai pas la croix. » Les Cosaques lui ont dit, « Si tu n'embrasses pas la croix, nous allons te tuer. » Et mon père a dit, « Vous pouvez me tuer, je n'embrasserai pas la croix. » Alors les Cosaques ont attaché mon père, dit Gedalia, et ils ont mis le feu à mon père. Et mon père a brûlé en un instant. Et moi, quand les Cosaques viendront, la flamme montera jusqu'au ciel et elle éclairera le monde. Je crois que là, nous avons affaire à une histoire extrêmement importante et qui répond, selon moi, au sujet, à savoir que nous avons ici affaire à 3 personnes. Nous avons affaire au Becht en quête de cet universalisme, Gedalia, l'autre. Nous avons les Cosaques, les non-juifs. Et nous avons cet homme en train de se baffrer, n'est-ce pas ? Ce Gedalia, qui veut atteindre le ciel par cette flamme, qui veut réveiller le monde, cette flamme qui brûlera jusqu'au ciel et qui éclairera le monde. Et finalement, c'est dans ce rapport entre l'homme de la pensée, l'homme simple qui est Gedalia, et le monde non-juif, que s'établit une certaine symbiose qui fait que l'universalisme juif peut exister. Ce préambule fini, permettez-moi de revenir au sujet et de parler un peu du rejet du judaïsme. Ce rejet, ce refus a existé de tout temps. On peut même dire qu'à l'époque talmudique, je ne voudrais pas parler de Bible ici, nous pourrions aussi trouver dans la Bible ces phénomènes de rejet parmi les Juifs. Mais contentons-nous du Talmud. Elisha ben Abouya, pour des raisons qui lui sont propres, a été appelé Acher, l'autre, à partir du moment où il a refusé le fait juif, ou le fait du judaïsme, plus que le fait juif. Nous pourrions parler de Shaul à Tarsi, dit Saint Paul, qui refusa le judaïsme pour constituer une nouvelle religion. Nous pourrions parler de Avner de Burgos, converti au christianisme au Moyen-Âge, et qui est finalement l'un des précurseurs de l'idéologie de la conversion au christianisme des juifs. Nous pourrions parler de Nathan Ahazati, Nathan de Gaza, propagandiste, diffuseur du chaptaïsme, et en cela refusant, reniant le judaïsme. Mais celui qui a sans conteste le plus contribué à ce refus du judaïsme, c'est Spinoza. Et tous les personnages que j'ai cités ont refusé le judaïsme à titre individuel. Ils n'ont pas eu d'impact sur les sociétés juives de leurs époques, ou de leur époque ou des époques qui les ont suivies. Par contre, Spinoza a joué un rôle par rapport au temps moderne, par rapport à notre monde jusqu'à aujourd'hui. Et avec Spinoza débute un nouveau courant qui est intégré au judaïsme. Je pense qu'aujourd'hui, personne, si Spinoza vivait, personne ne le mettrait au Kherem, personne ne l'excommunierait. Il serait de bon ton dans la communauté. Mais en rejetant le judaïsme à son époque, Spinoza ouvrit la porte à la philosophie juive, du moins à la philosophie moderne. Et son rejet fut tout de même un retour pour ceux qui l'écoutèrent et une nouvelle et la création, la formation d'une nouvelle approche de ce fait juif. Il existe chez ce pionnier de la modernité une volonté de briser les chaînes de la tradition. Vous savez que Spinoza d'ailleurs a vécu dans un monde extrêmement spécial qui était un monde chrétien, mais en même temps un monde très libre, qui se démarquait de toute tendance religieuse, finalement. Et Spinoza se rattachait plus par là à un humanisme, à une vision universaliste de la société située au-delà des religions. Spinoza refusa toujours de se convertir au christianisme, et ouvrit peut-être de cette façon les portes à la Haskalah, à l'émancipation des Juifs, et contribua probablement à l'élaboration de l'idéologie de l'assimilation. Spinoza avait la volonté d'appartenir à un tout, c'est peut-être sa formulation du panthéisme, le tout qui apparaissait dans l'homme avec sa centralité, n'est-ce pas ? La centralité de l'homme par rapport à celle de Dieu. Et je voudrais, à la suite de cela justement, illustrer ce propos par la présentation d'un personnage d'origine juive qui, dans des siècles, beaucoup plus proche, dans un siècle beaucoup plus proche d'une autre, puisqu'il s'agit du 19e, a tenté de refuser le judaïsme et à la lueur justement de toute cette théorie de l'assimilation qui avait été mise en branle au début des temps modernes. Il s'agit de Friedrich Julius Stahl. C'était une personnalité marquante à Berlin au siècle dernier. Et cette personnalité était marquante particulièrement par sa réussite dans le monde chrétien. Il était converti au protestantisme, professeur de droit à l'université de Berlin, penseur, théologien et homme politique. Stahl naquit dans une famille juive orthodoxe à Munich. Il se convertit au protestantisme à l'âge de 17 ans, non pas pour des raisons d'ordre religieuse, mais pour des raisons d'ordre culturel, comme beaucoup de ses frères juifs de l'époque. Et par la suite, en étudiant la religion protestante, devint un croyant profond. Pour lui, le protestantisme constituait le fondement de sa philosophie, aussi bien sur le plan social que sur le plan politique. Et selon lui, le juif ou le déiste ne pouvait jouer un rôle dominant dans la société prussienne, réunie dans l'État. Et il est le personnage le plus marquant qui a développé l'idée de ce qu'on appelle l'État chrétien au XIXe siècle, qui était la base, le fondement de la pensée du mouvement conservateur chrétien en Allemagne, protestant bien entendu. Et pour lui, l'universalisme passait par l'État chrétien. C'était rejoindre ce tout, briser le ghetto, rentrer dans cette société qui finalement représentait la civilisation et intégrer ce judaïsme microcosmique à cette société qu'il considérait comme macrocosmique. En réalité, Stahl n'avait fait que passer d'un état, d'une communauté à une autre communauté. L'impact de Stahl ne dura que ce que dura le conservatisme en Europe à la fin du XIXe siècle. Mais cette philosophie de l'assimilation qui s'est développée durant tout ce XIXe siècle et au début du XXe n'a représenté qu'un des types de recherche de cet universalisme. Il nous faudrait aussi parler ici du mouvement socialiste juif, qu'il soit sioniste ou non, de la fin du XIXe et du début du XXe. Il nous faudrait bien sûr parler du Bund, ce mouvement socialiste juif prolétaire qui fit trembler Lénine et les bolcheviks au moment de la Révolution, mouvement qui rejetait le ghetto juif, mouvement qui rejetait le judaïsme dans son ensemble et qui pensait résoudre la problématique du fait juif et de l'antisémitisme dans une internationale des travailleurs. Mais ceux-là même qui rejetaient le judaïsme y revenaient par une autre porte, par le biais de l'ethnos, par le biais de leur contribution à la culture yiddish, car ils étaient incapables de se séparer du fait juif dans sa totalité. Nous savons aujourd'hui combien ces gens du Bund ont contribué au développement de la culture yiddish. Et nous savons combien finalement, malgré l'échec du mouvement, nous savons que à la suite ou à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, nombreux sont les dirigeants du Bund qui se sont suicidés. Nous savons combien ces gens-là, malgré tout, ont maintenu le judaïsme. Il y a c'était une blague, aujourd'hui quand on l'entend, je ne pense plus que c'était une blague, mais elle situe très bien la place d'une Bund dans la société. Quand il y avait une manifestation ouvrière en Pologne ou en Russie, le Bund était toujours à la queue de la manifestation. Et savez-vous pourquoi ? Eh bien parce que quand les policiers arrivaient par derrière, ils commençaient à taper sur les juifs, sur le Bund. Et quand les ouvriers polonais et russes se retournaient, savez-vous sur qui ils tapaient en premier ? Sur les juifs. Et je crois que c'est effectivement la place qu'occupait le Bund dans cette société, à savoir une volonté de déboucher sur le grand monde et en même temps une recréation d'une société juive d'un type différent, non pas appuyé sur la tradition, mais sur une forme de judéité toute particulière. Vous me permettrez ce soir de me rabattre, si l'on peut dire, sur le monde juif actuel et particulièrement sur le monde juif israélien. Ce que je vais dire est aussi vrai pour la France que pour les États-Unis, mais je voudrais l'étayer au niveau d'Israël. Et je voudrais tout d'abord me référer à une terminologie qui existe en Israël et qui est choquante pour mon oreille. C'est celle de la division de la société israélienne en ce que nous appelons les dati'im et les chilonim, à savoir les religieux et les laïcs. En réalité, lorsque nous employons cette terminologie, nous commettons un contresens. Parce que disons-nous ? Vous voyez, j'ai traduit dati, religieux, chiloni, laïque. Or, l'hébreu dit tout à fait autre chose avec ces mots-là. Le mot dat en hébreu signifie la loi, la coutume. Le mot figure dans la Bible, dans le livre d'Esther, et n'a aucun rapport avec la religion. Le mot chiloni vient du mot chol, profane. Est-ce qu'il existe des gens qui sont profanes et des gens qui ne le sont pas? L'hébreu moderne a choisi cette terminologie, finalement, pour distinguer les calotins et les non-calotins. L'homme de la synagogue, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas, n'est-ce pas? Mais en réalité, dans l'essence même du judaïsme, c'est une terminologie qui n'a pas sa place. De même, pour l'étayer sur un plan historique, vous n'ouvrirez pas un livre d'histoire en Israël, et même en France, je pense, parlant de Théodore Herzl, et où ne figurera pas la mention « Herzl était un juif assimilé », un juif de l'assimilation. Et je souris toujours lorsque j'entends cela. Parce que s'il y a eu un juif qui était éloigné de l'assimilation, c'est bien Herzl. Herzl, à l'âge de 13 ans, a fait sa bar mitzvah. Herzl a appris l'hébreu, il a lu dans la Torah. Il est vrai qu'à la maison, la culture allemande était beaucoup plus poussée que la culture juive. Mais il connaissait son identité juive, il ne la reniait pas. Et pourtant, on a qualifié Herzl d'assimilé. Ah, peut-être s'est-il marié avec une non-juive? Non, même pas. Il s'est marié avec une juive et finalement a même écrit l'État juif, n'est-ce pas? Alors, où est l'assimilé? Où est ce juif assimilé? Herzl est un assimilé du point de vue de la religion, c'est vrai. Il n'était pas pratiquant. Il n'a jamais été homme de la tradition. Mais entre cela et l'assimilation, Friedrich Julius Stahl est un assimilé. Il a renié complètement le fait juif. Herzl n'a fait qu'essayer de l'enrichir par une voie qui n'était pas celle de la tradition. Et finalement, il a ouvert la voie à cette contrepartie à l'assimilation, à savoir qu'il existait une possibilité d'offrir aux Juifs autre chose que cette assimilation. La réponse de Herzl était une réponse à une certaine orthodoxie, plus ou moins figée, à une assimilation galopante, peut-être plus galopante qu'aujourd'hui, et réponse aussi, peut-être était-ce la principale réponse de Herzl à l'antisémitisme. Je crois qu'Herzl avait comme principale préoccupation de sauver les Juifs de l'antisémitisme et essentiellement des Russes. Et ceci nous conduit finalement à parler de ce dont je veux vous entretenir maintenant, à savoir